Albert Bataille, le double suicide de l'hôtel d'Irlande. Lambert, ce boulanger d'Amiens, qui vint au mois de juillet dernier suicider sa femme dans un hôtel garni de Paris, a comparu aujourd'hui devant le jury de la Seine sous l'accusation d'assassinat. C'est bien un assassinat, en effet, le plus lâche et le plus cruel de tous que ce misérable a commis en menant à la mort une malade hantée par des idées noires, en flattant sa manie, en lui procurant successivement la corde, le revolver, le réchaud, et en jouant enfin, pour triompher des hésitations dernières, l'indigne comédie d'un suicide à deux. Ce grand garçon, blême à la moustache tombante, au trait dur, fils de paysan, ayant gardé de son hérédité toute l'âpreté rurale, avait épousé Agathe Bonin par un coup de folie. Il l'avait connue dans un bal musette en 1891, alors qu'il était encore boulanger à Paris. Lambert Père, vieux villageois, picard, fut indigné de ce mariage, moins peut-être en raison du passé de sa belle-fille qu'à cause de la pauvreté. Il la maudit, refusant son consentement, et bouda le jeune ménage qui alla s'établir à Amiens, où l'accusé d'hier venait d'acheter 60 000 francs à un fonds de boulangerie fort bien achalandé. À Amiens, la jeune Madame Lambert trompa la tante malicieuse de ses voisins. Sa conduite fut irréprochable. Elle était laborieuse, intelligente, entendue, et la boulangerie en prospéra. Par malheur, la pauvre femme tomba malade. Elle souffrait de l'estomac, du cœur. Elle était menacée de perdre la vie. Alors elle se mit à la charge de tout le monde, en but au reproche de son beau-père, qui, dans ses rares visites, la rudoyait en répétant « On n'a plus qu'à se détruire quand on n'est plus bon à rien. » Elle craignait de devenir pour son mari lui-même un objet d'aversion et de dégoût. Elle sentait qu'il ne l'aimait plus. Et l'idée fixe du suicide germa dans sa pauvre tête sans que Lambert fît rien pour la tirer de son marasme. Lambert. Je ne lui ai jamais adressé aucun reproche. Je l'entourais de soins, de tendresse, de dévouement. Je luttais, impuissant, contre son désespoir. Chaque jour, elle me suppliait de la mener au bord de la Seine, somme où elle venait se précipiter, ou de lui procurer un revolver. Monsieur le Président, mais il fallait prévenir sa mère. Mais je l'ai fait. Oui, quand il était plus temps. Votre belle-mère ne croit pas au suicide de sa fille. Elle vous accuse même d'une façon formelle d'avoir tué votre femme pour vous débarrasser d'elle. Le ministère public ne va pas jusque-là. Il croit que Madame Lambert a voulu mourir, mais il vous demandera tout à l'heure pourquoi, loin de combattre ses pensées de suicide, vous avez paru les partager, vous qui n'aviez aucune raison d'en finir avec la vie. C'était une inutile comédie pour amener votre femme à réaliser son destin. Car la préoccupation constante de cette malheureuse était de ne pas vous laisser derrière elle, de mourir en même temps que vous. Elle prévoyait bien de mourir. Le sentiment de la délivrance que vous inspirait sa mort, mais pour la sauver, vous n'aviez qu'à vouloir vivre et à lui dire, mais vous teniez à sa destinée entre vos mains. Et pourquoi ne vous êtes-vous pas suicidé à Amiens? La crainte d'effaroucher la clientèle. Vous avez quitté furtivement la ville le 10 juillet, sans en rien dire à personne, en prenant un chemin détourné pour aller à la gare. Ce départ mystérieux est bien étrange. Nous étions résolus à mourir ensemble. Il était inutile de donner l'éveil. Le 10 juillet, dans la soirée, les époux Lambert arrivaient à Paris. Monsieur le Président, que s'est-il passé du 10 au 15? Si on ne sait rien de vous que parce qu'il vous en a plu de le raconter. Pendant 5 jours, nous allons assister à l'agonie d'une malheureuse qui se débat entre la vie et la mort devant laquelle elle recule avec épouvante toutes les fois que l'heure finale a sonné. Et vous êtes là, près d'elle, vous prêtant à tous ses caprices, lui procurant avec une méprisable complaisance tous les instruments de mort qu'elle vous demande. Avant de descendre à l'hôtel de Saint-Malo, vous vous rendiez tout d'abord et vous vous faites inscrire sous le faux nom de Boucher, venant de Versailles. Vous achetez un réchaud et un chargeur. Mais votre femme ne veut pas du réchaud. Elle craint que l'odeur du charbon, pénétrant à travers les minces cloisons de la chambre, ne se répande dans l'hôtel. Elle préfère attendre au lendemain, et le lendemain, elle n'a plus qu'une idée fixe, se noyer avec vous dans la Seine. Aussi, le soir venu, vous la conduisez jusqu'au quai des Tuileries. Mais là, la malheureuse recule encore. La nuit, l'eau lui fait peur, dites-vous. Et vous l'emmenez alors aux Champs-Élysées. Vous achevez la soirée au concert de l'horloge. Puis vous rentrez à l'hôtel d'Irlande, rue Saint-Honoré, où vous avez fait transporter votre valise. Le troisième jour, vous adressez à votre belle-mère une lettre signé de vous deux, non, et dans laquelle vous annoncez votre résolution de mourir ensemble. Et ce jour-là, Madame Lambert a renoncé à l'idée de se jeter dans la Seine. Alors elle vous demande un revolver. Vous en avez apporté un d'Amiens. Elle exige que vous en procuriez un second, pour vous frapper en même temps qu'elle, et toujours avec la même docilité, vous lui rapportez un autre revolver que vous êtes allé acheter avec 25 cartouches. Ben, elle avait le droit de se tuer, je suppose, monsieur le Président. Mais quand elle a vu le revolver, la pauvre femme a encore reculé devant la mort. Elle a rejeté l'arme avec épouvante. Alors vous l'avez menée à Charenton, au bord de la Marne. Mais la Marne lui a inspiré la même répulsion que la Seine. Et vous êtes revenu par le bois de Vincennes. Le quatrième jour, Madame Lambert ne veut plus ni réchaud, ni de revolver, ni du suicide à deux dans la Seine. C'est une corde qu'elle réclame. Son mari va acheter une corde de 5 mètres à laquelle il fait un nœud coulant. Et cette fois encore, la malade se révolte au dernier moment. La soirée s'achève à Meudon, et vers 10 h, les deux époux rentrent à l'hôtel d'Irlande. Pendant que sa femme se déshabille, Lambert sort pour acheter du charbon, des bûchettes de ouate pour calfeutrer la pièce, et la fenêtre. Il rapporte aussi un pâté de foie gras, une bouteille de Bordeaux et un flacon d'eau de vie, monsieur le président. Et il fallait en finir. Monsieur Lambert, prétendez-vous être venu à l'idée première d'asphyxie à deux? À quelle heure êtes-vous rentré? Vers minuit. Et votre femme, était-elle couchée? Non, elle était debout, en toilette de nuit. Elle m'attendait impatiemment. N'avez-vous pas plutôt profité de son premier sommeil pour allumer le réchaud? Oh non, monsieur, je vous jure, c'est elle qui a calfeutré les couvertures et attisé le feu. Moi, je me suis contenté de disposer le charbon, le fourneau que j'ai placé sur la table. Oui, mais c'est qu'on a retrouvé ses vêtements soigneusement pliés sur une chaise, comme si elle pensait s'éveiller le lendemain. Bon, après seulement finir, elle, c'est toujours la première. Alors je me suis étendu à côté d'elle et bientôt je me suis endormi profondément. Et quand je me suis réveillé, il pouvait être 10 h du matin, je ressentais un mal de tête effroyable. Ma femme n'était plus à côté de moi. Elle était tombée sur le tapis. Elle râlait. Elle était vivante, alors qu'avez-vous fait? Et l'accusé, tout à l'heure presque arrogant, baisse la tête en sanglotant. Elle était vivante, répond monsieur le président. Qu'avez-vous tenté pour la rappeler à la vie? Je lui ai tamponné les tempes avec du cognac. J'ai déconcentré les fenêtres, décalfeutré. Vous n'avez pas appelé de secours? Vous êtes resté là, 4 h 30, à côté de l'agonisante, attendant son dernier souffle. Vers 1 h, le garçon d'hôtel, inquiet de ne pas vous voir paraître, est venu frapper à la porte. Votre femme respirait encore, et vous avez crié au garçon de ne pas entrer. Vous l'avez jeté vos bottes dans le corridor. Et quand il les a rapportées, cirées, la mort avait enfin fait son œuvre. Alors vous avez replacé le cadavre sur son lit, car le réchaud, placé le réchaud dans l'armoire, caché, et vous êtes parti sans prévenir personne. Et où allez-vous? Leur mère, atterrée par ce terrible interrogatoire, balbutia quelques paroles inintelligibles. Je vais vous le dire, vous allez reprendre, monsieur le président. Vous allez retrouver une vieille maîtresse avec laquelle vous avez passé 2 jours en fête. Oh, vous étiez bien tranquille. Vous étiez inscrit à l'hôtel sous un faux nom. Vous emportiez tous les papiers qui pouvaient faire soupçonner votre identité. La porte que le propriétaire de l'hôtel devait découvrir, que le lendemain, la morte irait vous comptiez de bien figurer à la morgue, au milieu des cadavres inconnus. Mais on ne pense pas à tout, monsieur. La marque d'une couturière sur un jupon de madame Lambert allait permettre de reconstituer son identité. Ce jupon, elle l'avait commandé à l'époque où elle n'était pas encore mariée, où elle habitait sous son nom de fille dans le grand vous avez garni, vous l'avez connu. La couturière donna l'adresse de ce garni, et c'est là qu'on vous a découvert. Car, par une inconcevable imprudence, vous étiez retourné dans cet hôtel où vous aviez amené autrefois vos maîtresses, et c'est là que vous avez loué une chambre avec une fille, Stephen, qui, le soir de votre prétendue tentative de suicide, vous étiez allé racolé dans un balmusette et que vous aviez emmené souper au chien qui fume. Et pendant 2 jours, vous avez couru avec cette fille les bals et les lieux de plaisir, fêtant joyeusement votre délivrance. Je voulais m'étourdir. Votre mal de tête est impercé. Mais comment expliquez-vous au jury que votre femme soit morte et que vous ayez été quitté à aussi bon compte, vous? Je ne sais pas. Moi, j'étais bien décidé à mourir comme elle. Mais les médecins ont constaté que Madame Lambert n'avait pas été asphyxiée tout d'un coup, mais progressivement, à petite dose. Comme si vous aviez de temps en temps entrouvert la fenêtre et laissé entrer un peu d'air, assez pour vous permettre de résister, mais insuffisamment pour animer cette malheureuse malade, et beaucoup plus faible que vous. Et il y avait aussi à côté de l'alcôve un petit cabinet. Vous avez pu vous tenir toute la nuit. Oui, ce petit cabinet n'avait pas de fenêtre. Mais le médecin estime que vous y étiez moins exposé que dans la chambre au gaz délétère qui s'échappait du réchaud. Quoi qu'il en soit, ce qui reste acquis, c'est que vous pouviez sauver votre victime et que vous ne l'avez pas fait ni voulu. Et que vous avez insisté impitoyable à son agonie de 4 heures, que vous n'avez pas appelé au secours. Et quand, lorsque le secours est venu, vous l'avez repoussé pour rester seul auprès de celle dont vous attendiez impatiemment le dernier souffle. Voilà pourquoi le ministère public vous dira que vous êtes un assassin. Peu de choses à retenir des témoignages. Monsieur le docteur Descourt, monsieur le professeur Augier, docteur du laboratoire de toxicologie, on fait l'autopsie du cadavre et constaté dans les viscères des traces d'arsenic, sans pouvoir, d'ailleurs, vu la faible dose, trouver, conclure à une tentative d'empoisonnement. La fille Stéphane ne s'est pas présentée à l'audience. Monsieur le Président donne lecture de sa déposition. Lambert avait dépensé avec elle environ 200 francs lorsqu'on l'arrêta. Il avait raconté à cette nouvelle maîtresse que sa femme était partie pour Amiens et lui avait demandé de l'accompagner au magasin du Louvre parce qu'il allait rapporter une rose robe à la bourgeoise. Monsieur l'avocat général Boulot prononce son réquisitoire. Maître Henri Wauder présente la défense de Lambert, est reconnu coupable d'assassinat avec admission des circonstances atténuantes. Le boulanger d'Amiens est condamné à 8 ans de réclusion.